Le temps retrouvé, chapitre 3, suite. Je dis à madame de Guermantes que j'avais rencontré monsieur de Charlus. Elle le trouvait encore plus baissé qu'il n'était, les gens du monde faisant des différences en ce qui concerne l'intelligence, non seulement entre divers gens du monde, chez lesquels elle est à peu près semblable, mais même chez une même personne à différents moments de sa vie. Puis elle ajouta « Il a toujours été le portrait de ma belle-mère. C'est encore plus frappant maintenant. » Cette ressemblance n'avait rien d'extraordinaire. On sait, en effet, que certaines femmes se projettent en quelque sorte elles-mêmes en un autre être avec la plus grande exactitude. La seule erreur est dans le sexe. Erreur dont on ne peut pas dire « Félix culpa », car le sexe réagit sur la personnalité, et chez un homme, le féminisme devient affaiblie, la réserve susceptibilité, etc. N'importe, dans la figure, fut-elle barbue, dans les joues, même congestionnées sous les favoris, il y a certaines lignes superposables à quelques portraits maternels. Il n'est guère de vieux Charlus qui ne soit une ruine, où l'on ne reconnaisse avec étonnement, sous tous les empattements de la graisse et de la poudre de riz, quelques fragments d'une belle femme en sa jeunesse éternelle. « Je ne peux pas vous dire comme ça me fait plaisir de vous voir, » reprit la duchesse. « Mon Dieu, quand est-ce que je vous avais vu la dernière fois ?»« En visite chez madame d'Agrigente, où je vous trouvais souvent. » « Naturellement, j'y allais souvent, mon pauvre petit, comme Bazin l'aimait à ce moment-là. C'est toujours chez sa bonne amie du moment qu'on me rencontrait le plus, parce qu'il me disait « Ne manquez pas d'aller lui faire une visite. » Au fond, cela me paraissait un peu inconvenant, cette espèce de visite de digestion qu'il m'envoyait faire une fois qu'il avait consommé. J'avais fini assez vite par m'y habituer. Mais ce qu'il y avait de plus ennuyeux, c'est que j'étais obligée de garder des relations après qu'il avait rompu les siennes. Ça me faisait toujours penser au vers de Victor Hugo. « Emporte le bonheur et laisse-moi l'ennui. » Comme dans la poésie, j'entrais tout de même avec un sourire. Mais vraiment, ce n'était pas juste. Il aurait dû me laisser, à l'égard de ses maîtresses, le droit d'être volage. Car en accumulant tous ces laissés pour compte, j'avais fini par ne plus avoir une après-midi à moi. D'ailleurs, ce temps me semble doux relativement au présent. Mon Dieu, qu'il se soit remis à me tromper, ça ne pourrait que me flatter, parce que ça me rajeunit. Mais je préférais son ancienne manière. Dame, il y avait trop longtemps qu'il ne m'avait trompé. Il ne se rappelait plus la manière de s'y prendre. Ah, mais nous ne sommes pas mal ensemble tout de même, nous nous parlons, nous nous aimons même assez, me dit la duchesse, craignant que je n'eusse compris qu'ils étaient tout à fait séparés. Et comme on dit de quelqu'un qui est très malade, mais il parle encore très bien, je lui ai fait la lecture ce matin pendant une heure. Elle ajouta, je vais lui dire que vous êtes là, il voudra vous voir. Et elle alla près du duc, qui, assis sur un canapé auprès d'une dame, causait avec elle. Mais en voyant sa femme venir lui parler, il prit un air si furieux qu'elle ne put que se retirer. « Il est occupé, je ne sais pas ce qu'il fait, nous verrons tout à l'heure, » me dit madame de Guermantes, préférant me laisser me débrouiller. Bloch, s'étant approché de nous et ayant demandé de la part de son américaine qui était une jeune duchesse qui était là, je répondis que c'était la nièce de monsieur de Bréauté, nom sur lequel Bloch, à qui il ne disait rien, demanda des explications. « Ah, Bréauté !» s'écria madame de Guermantes en s'adressant à moi. « Vous vous rappelez ? Mon Dieu, que tout cela est loin !» Puis, se tournant vers Bloch, « Eh bien, c'était un snob !» C'était des gens qui habitaient près de chez ma belle-mère. Cela ne vous intéresserait pas. C'est amusant pour ce petit. ajouta madame de Guermantes, me montrant par ses paroles. De bien des manières, le long temps qui s'était écoulé. Les opinions, les amitiés de madame de Guermantes s'étaient tant renouvelées depuis ce moment-là qu'elle considérait son charmant babal comme un snob. D'autre part, il ne se trouvait pas seulement reculé dans le temps, mais, chose dont je ne m'étais pas rendu compte quand, à mes débuts dans le monde, je l'avais cru une des notabilités essentielles de Paris, qui resterait toujours associée à son histoire mondaine, comme celui de Colbert à celle du règne de Louis XIV, il avait lui aussi sa marque provinciale. Il était un voisin de campagne de la vieille duchesse, avec lequel la princesse des Laumes s'était liée comme telle. Pourtant, ce Bréauté, dépouillé de son esprit, relégué dans ces années si lointaines qu'il datait, ce qui prouvait qu'il avait été entièrement oublié depuis par la duchesse, et dans les environs de Guermantes, était entre la duchesse et moi ce que je n'eusse jamais cru le premier soir à l'Opéra Comique, quand il m'avait paru un dieu nautique habitant son antre marin. Un lien, parce qu'elle se rappelait que je l'avais connu, donc que j'étais son amie à elle, sinon sortie du même monde qu'elle, du moins vivant dans le même monde qu'elle, depuis bien plus longtemps que bien des personnes présentes, qu'elle se le rappelait, et assez imparfaitement cependant pour avoir oublié certains détails qui m'avaient à moi semblé alors essentiels. Que je n'allais pas à Guermantes et n'étais qu'un petit bourgeois de Combray, au temps où elle venait à la messe de mariage de mademoiselle Percepied, qu'elle ne m'invitait pas, malgré toutes les prières de Saint-Loup, dans l'année qui suivit son apparition à l'Opéra Comique. À moi, cela me semblait capital, car c'est justement à ce moment-là que la vie de la duchesse de Guermantes m'apparaissait comme un paradis où je n'entrerais pas. Mais pour elle, elle lui apparaissait comme sa même vie médiocre de toujours. Et puisque j'avais, à partir d'un certain moment, dîné souvent chez elle, que j'avais d'ailleurs été, avant cela même, un ami de sa tante et de son neveu, elle ne savait plus exactement à quelle époque notre intimité avait commencé, et ne se rendait pas compte du formidable anachronisme qu'elle faisait en faisant commencer cette amitié quelques années plus tôt. Car cela faisait que jusqu'au nul la madame de Guermantes, du nom de Guermantes, impossible à connaître, que j'eusse été reçue dans le nom aux syllabes dorées, dans le faubourg Saint-Germain, alors que tout simplement j'étais allée dîner chez une dame qui n'était déjà plus pour moi qu'une dame comme une autre, et qui m'avait fait quelquefois inviter, non à descendre dans le royaume sous-marin des Néréides, mais à passer la soirée dans la baignoire de sa cousine. Si vous voulez des détails sur Bréauté, qui n'en valait guère la peine, ajouta-t-elle en s'adressant à Bloch, demandez-en à ce petit qui le vaut 100 fois. Il a dîné 50 fois avec lui chez moi. N'est-ce pas que c'est chez moi que vous l'avez connu? En tout cas, c'est chez moi que vous avez connu Swann. Et j'étais aussi surpris qu'elle pût croire que j'avais peut-être connu monsieur de Bréauté ailleurs que chez elle, donc que j'allasse dans ce monde-là avant de la connaître, que de voir qu'elle croyait que c'était chez elle que j'avais connu Swann. Moins mensongèrement que Gilberte, quand elle disait de Bréauté « C'est un vieux voisin de campagne, j'ai plaisir à parler avec lui de Tansonville. » Alors qu'autrefois, à Tansonville, il ne les fréquentait pas, j'aurais pu dire « C'est un voisin de campagne qui venait souvent nous voir le soir. » De Swann, qui, en effet, me rappelait tout autre chose que les Guermantes. « Je ne saurais pas vous dire, » reprit-elle. « C'était un homme qui avait tout dit quand il parlait d'Altesse. Il avait un lot d'histoires assez drôles sur des gens de Guermantes, sur ma belle-mère, sur madame de Varambon, avant qu'elle fût auprès de la princesse de Parme. Mais qui sait aujourd'hui qui était madame de Varambon? Ce petit-là, oui, il a connu tout ça, Mais tout ça, c'est fini. Ce sont des gens dont le nom même n'existe plus, et qui d'ailleurs ne mériteraient pas de survivre. Et je me rendais compte, malgré cette chose une que semble le monde, et où, en effet, les rapports sociaux arrivent à leur maximum de concentration et où tout communique, comme il y reste des provinces, ou du moins comme le temps en fait qui change de nom, qui ne sont plus compréhensibles pour ceux qui arrivent seulement quand la configuration a changé. C'était une bonne dame qui disait des choses d'une bêtise inouïe, reprit en parlant de madame de Varambon la duchesse, qui, insensible à cette poésie de l'incompréhensible, qui est un effet du temps, dégageait en toute chose l'élément drôle, assimilable à la littérature genre Meillac, à l'esprit des Guermantes. À un moment, elle avait la manie d'avaler tout le temps des pastilles qu'on donnait dans ce temps-là contre la toux, et qui s'appelaient, ajouta-t-elle en riant elle-même d'un nom si spécial, si connu autrefois, si inconnu aujourd'hui des gens à qui elle parlait, des pastilles Géraudel. Madame de Varambon, lui disait ma belle-mère, en avalant tout le temps comme cela des pastilles Géraudel, vous vous ferez mal à l'estomac. « Mais, madame la duchesse, répondait madame de Varambon, comment voulez-vous que cela fasse mal à l'estomac, puisque cela va dans les bronches ? » Et puis c'est elle qui disait, « La duchesse a une vache si belle qu'on la prend toujours pour étalon. » Et madame de Guermantes eut volontiers continué à raconter des histoires de madame de Varambon, dont nous connaissions des centaines, mais nous sentions bien que ce nom n'éveillait dans la mémoire ignorante de Bloch aucune des images qui se levaient pour nous aussitôt qu'il était question de madame de Varambon, de monsieur de Bréauté, du prince d'Agrigente, et à cause de cela même, excitait peut-être chez lui un prestige que je savais exagéré, mais que je trouvais compréhensible, non pas parce que je l'avais moi-même subi, nos propres erreurs et nos propres ridicules ayant rarement pour effet de nous rendre, même quand nous les avons percés à jour, plus indulgents à ceux des autres. Le passé s'était tellement transformé dans l'esprit de la duchesse, ou bien les démarcations qui existaient dans le mien avaient été toujours si absentes du sien, que ce qui avait été événement pour moi avait passé inaperçu d'elle, qu'elle pouvait supposer non seulement que j'avais connu Swann chez elle et monsieur de Bréauté ailleurs, me faisant ainsi un passé d'homme du monde qu'elle reculait même trop loin. Car cette notion du temps écoulé, que je venais d'acquérir, la duchesse l'avait aussi, et même avec une illusion inverse de celle qui avait été la mienne de le croire plus court qu'il n'était. Elle, au contraire, exagérait. Elle le faisait remonter trop haut, notamment sans tenir compte de cette infinie ligne de démarcation entre le moment où elle était pour moi un nom, puis l'objet de mon amour, et le moment où elle n'avait été pour moi qu'une femme du monde quelconque. Or, je n'étais allée chez elle que dans cette seconde période où elle était pour moi une autre personne. Mais à ses propres yeux, ces différences échappaient. Et elle n'eût pas trouvé plus singulier que j'eusse été chez elle 2 ans plus tôt, ne sachant pas qu'elle était alors pour moi une autre personne, sa personne n'offrant pas pour elle-même, comme pour moi, de discontinuité. Je dis à la duchesse de Guermantes, en lui racontant que Bloch avait cru que c'était l'ancienne princesse de Guermantes qui recevait, « Cela me rappelle la première soirée où je suis allée chez la princesse de Guermantes, où je croyais ne pas être invitée et qu'on allait me mettre à la porte, et où vous aviez une robe toute rouge et des souliers rouges. Mon Dieu, que c'est vieux tout cela !» me répondit la duchesse, accentuant pour moi l'impression du temps écoulé. Elle regardait dans le lointain avec mélancolie, et pourtant insista particulièrement sur la robe rouge. Je lui demandai de me la décrire, ce qu'elle fit complaisamment. Maintenant, cela ne se porterait plus du tout. C'était des robes qui se portaient dans ce temps-là.
Mais est-ce que ce n'était pas joli ? Lui dis-je.
Elle avait toujours peur de donner un avantage contre elle par ses paroles, de dire quelque chose qui la diminua.
Mais si, moi je trouvais cela très joli. On n'en porte pas parce que cela ne se fait plus en ce moment. Mais cela se reportera. Toutes les modes reviennent, en robe, en musique, en peinture,
ajouta-t-elle avec force, car elle croyait une certaine originalité à cette philosophie. Cependant, la tristesse de vieillir lui rendit sa lassitude qu'un sourire lui disputa.
« Vous êtes sûre que c'était des souliers rouges ? Je croyais que c'était des souliers d'or. »
J'assurais que cela m'était infiniment présent à l'esprit, sans dire la circonstance qui me permettait de l'affirmer.
« Vous êtes gentille de vous rappeler cela, » me dit-elle d'un air tendre,
« car les femmes appellent gentillesse se souvenir de leur beauté, comme les artistes admiraient leurs œuvres. D'ailleurs, si lointain que soit le passé, quand on est une femme de tête comme la duchesse, il peut ne pas être oublié.
« Vous rappelez-vous ? »
me dit-elle en remerciement de mon souvenir pour sa robe et ses souliers. « Que nous vous avons ramené, Bazin et moi ? Vous aviez une jeune fille qui devait venir vous voir après minuit. » Bazin riait de tout son cœur en pensant qu'on vous faisait des visites à cette heure-là. Je me rappelais, en effet, que ce soir-là, Albertine était venue me voir après la soirée de la princesse de Guermantes. Je me le rappelais aussi bien que la duchesse. Moi, à qui Albertine était maintenant aussi indifférente qu'elle l'eût été à Madame de Guermantes, si Madame de Guermantes eût su que la jeune fille, à cause de qui je n'avais pas pu entrer chez eux, était Albertine. C'est que longtemps après que les pauvres morts sont sortis de nos cœurs, leur poussière indifférente continue à être mêlée, à servir d'alliage aux circonstances du passé. Et sans plus les aimer, il arrive qu'en évoquant une chambre, une allée, un chemin, où ils furent à une certaine heure, nous sommes obligés, pour que la place qu'ils occupaient soit remplie, de faire allusion à eux, même sans les regretter, même sans les nommer, même sans permettre qu'on les identifie. Madame de Guermantes n'identifiait guère la jeune fille qui devait venir ce soir-là, n'avait jamais su son nom, et n'en parlait qu'à cause de la bizarrerie de l'heure et de la circonstance. Telles sont les formes dernières et peu enviables de la survivance. Si les jugements que la duchesse porta ensuite sur Rachel furent en eux-mêmes médiocres, ils m'intéressèrent en ce que, eux aussi, marquaient une heure nouvelle sur le cadran. Car la duchesse n'avait pas plus complètement que Rachel perdu le souvenir de la soirée que celle-ci avait passée chez elle. Mais ce souvenir n'y avait pas subi une moindre transformation.
« Je vous dirai, » me dit-elle, « que cela m'intéresse d'autant plus de l'entendre, et de l'entendre acclamer, que je l'ai déniché, apprécié, prôné, imposé, à une époque où personne ne la connaissait et où tout le monde se moquait d'elle. Oui, mon petit, cela va vous étonner. Mais la première maison où elle s'est fait entendre en public, c'est chez moi. Oui, pendant que tous les gens prétendus d'avant-garde, comme ma nouvelle cousine, dit-elle en montrant ironiquement la princesse de Guermantes, qui pour Oriane restait Madame Verdurin, l'aurait laissée crever de faim sans daigner l'entendre. Je l'avais trouvée intéressante, et je lui avais fait offrir un cachet pour venir jouer chez moi devant tout ce que nous faisions de mieux comme gratin. Je peux dire, d'un mot un peu bête et prétentieux, car au fond, le talent n'a besoin de personne, que je l'ai lancé. Bien entendu, elle n'avait pas besoin de moi. J'esquissai un geste de protestation
et je vis que Madame de Guermantes était toute prête à accueillir la thèse opposée. « Si, vous croyez que le talent a besoin d'un appui ? Au fond, vous avez peut-être raison. C'est curieux, vous dites justement ce que Dumas me disait autrefois. Dans ce cas, je suis extrêmement flattée. Si je suis pour quelque chose, pour si peu que ce soit, non pas évidemment dans le talent, mais dans la renommée d'une telle artiste. » Madame de Guermantes préférait abandonner son idée que le talent perce tout seul comme un abcès, parce que c'était plus flatteur pour elle, mais aussi parce que, depuis quelque temps, recevant des nouveaux amis et étant du reste fatiguée, elle s'était faite assez humble, interrogeant les autres, leur demandant leur opinion pour s'en former une. « Je n'ai pas besoin de vous dire, reprit-elle, que cet intelligent public, qui s'appelle le monde, ne comprenait absolument rien à cela. On protestait, on riait. J'avais beau leur dire « C'est curieux, c'est intéressant, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait. » On ne me croyait pas, comme on ne m'a jamais cru pour rien. C'est comme la chose qu'elle jouait. C'était une chose de Maeterlinck. Maintenant, c'est très connu. Mais à ce moment-là, tout le monde s'en moquait. Eh bien, moi, je trouvais ça admirable. Ça m'étonne même, quand j'y pense, qu'une paysanne comme moi, qui n'ait que l'éducation des filles de province, ait aimé du premier coup ces choses-là. Naturellement, je n'aurais pas pu dire pourquoi, mais ça me plaisait, ça me remuait. Tenez, Bazin, qui n'a rien d'insensible, avait été frappé de l'effet que ça me produisait. Il m'avait dit « Je ne veux plus que vous entendiez ces absurdités, ça vous rend malade. » Et c'était vrai, parce qu'on me prend pour une femme sèche et que je suis, au fond, un paquet de nerfs. À ce moment, se produisit un incident inattendu. Un valet de pied vint dire à Rachel que la fille de la Berma et son gendre demandaient à lui parler. On a vu que la fille de la Berma avait résisté au désir qu'avait son mari de faire demander une invitation à Rachel. Mais après le départ du jeune homme invité, l'ennui du jeune couple auprès de leur mère s'était accru. La pensée que d'autres s'amusaient les tourmentait. Bref, profitant d'un moment où la Berma s'était retirée dans sa chambre, crachant un peu de sang, ils avaient quatre à quatre revêtu des vêtements plus élégants, fait appeler une voiture et était venu chez la princesse de Guermantes sans être invité. Rachel, se doutant de la chose et secrètement flattée, prit un ton arrogant et dit au valet de pied qu'elle ne pouvait pas se déranger, qu'ils écrivissent un mot pour dire l'objet de leur démarche insolite. Le valet de pied revint, portant une carte où la fille de la Berma avait griffonné qu'elle et son mari n'avaient pu résister au désir d'entendre Rachel et lui demandaient de les laisser entrer. Rachel sourit de la niaiserie de leur prétexte et de son propre triomphe. Elle fit répondre qu'elle était désolée, mais qu'elle avait terminé ses récitations. Déjà dans l'antichambre où l'attente du couple s'était prolongée, les valets de pied commençaient à se gausser des deux solliciteurs éconduits. La honte d'une avanie, le souvenir du rien qu'était Rachel auprès de sa mère, poussèrent la fille de la Berma à poursuivre à fond une démarche que lui avait fait risquer d'abord le simple besoin du plaisir. Elle fit demander comme un service à Rachel, dût-elle ne pas avoir à l'entendre, la permission de lui serrer la main. Rachel était en train de causer avec un prince italien qu'on disait séduit par l'attrait de sa grande fortune, dont quelques relations mondaines dissimulaient un peu l'origine. Elle mesura le renversement des situations, qui mettait maintenant les enfants de l'illustre Berma à ses pieds. Après avoir narré à tout le monde, d'une façon plaisante, cet incident, elle fit dire au jeune couple d'entrer, ce qu'il fit sans se faire prier, ruinant d'un seul coup la situation sociale de la Berma, comme il avait détruit sa santé. Rachel l'avait compris, et que son amabilité condescendante donnerait la réputation, à elle de plus de bonté, au jeune couple de plus de bassesse que n'eût fait son refus. Aussi les reçut-elle à bras ouverts, avec affectation, disant d'un air de protectrice en vue et qui sait oublier sa grandeur. « Mais je crois bien, c'est une joie, la princesse sera ravie !» Ne sachant pas qu'on croyait, au théâtre, que c'était elle qui invitait, peut-être avait-elle craint qu'en refusant l'entrée aux enfants de la Berma, ceux-ci doutassent, au lieu de sa bonne volonté, ce qui lui eût été bien égal, de son influence. La duchesse de Guermantes s'éloigna instinctivement, car au fur et à mesure que quelqu'un avait l'air de rechercher le monde, il baissait dans l'estime de la duchesse. Elle n'en avait plus en ce moment que pour la bonté de Rachel, et eût tourné le dos aux enfants de la Berma si on les lui avait présentés. Rachel, cependant, composait déjà dans sa tête la phrase gracieuse dont elle accablerait le lendemain la Berma dans les coulisses. « J'ai été navrée, désolée que votre fille fasse antichambre. Si j'avais compris, elle m'envoyait bien carte sur carte. » Elle était ravie de porter ce coup à la Berma. Peut-être eût-elle reculé si elle eût su que ce serait un coup mortel. On aime à faire des victimes, mais sans se mettre précisément dans son tort et en les laissant vivre. D'ailleurs, où était son tort? Elle devait dire en riant quelques jours plus tard « C'est un peu fort. J'ai voulu être plus aimable pour ses enfants qu'elle n'a jamais été pour moi. Et pour un peu, on m'accuserait de l'avoir assassinée. Je prends la duchesse à témoin. » Il semble pour les grands artistes que tous les mauvais sentiments et tout le factice de la vie de théâtre passent en leurs enfants, sans que chez eux le travail obstiné soit un dérivatif, comme chez la mère. Les grandes tragédiennes meurent souvent victimes de complots domestiques noués autour d'elles, comme il leur arrivait tant de fois à la fin des pièces qu'elles jouaient. Gilberte, nous l'avons vu, avait voulu éviter un conflit avec sa tante au sujet de Rachel. Elle avait bien fait. Il n'était déjà pas facile de prendre devant Madame de Guermantes la défense de la fille d'Odette, tant son animosité était grande, et cela parce que la manière nouvelle dont la duchesse m'avait dit être trompée était la manière dont le duc la trompait. Si extraordinaire que cela pût paraître, à qui savait l'âge d'Odette, avec Madame de Forcheville. Quand on pensait à l'âge que devait avoir maintenant Madame de Forcheville, cela semblait en effet extraordinaire. Mais peut-être Odette avait-elle commencé la vie de femme galante très jeune. Et puis il y a des femmes qu'à chaque décade on retrouve en une nouvelle incarnation, ayant de nouvelles amours, parfois alors qu'on les croyait mortes, faisant le désespoir d'une jeune femme que pour elle abandonne son mari. La vie de la duchesse ne laissait pas d'ailleurs d'être très malheureuse, et pour une raison qui, par ailleurs, avait pour effet de déclasser parallèlement la société que fréquentait Monsieur de Guermantes. Celui-ci, qui, depuis longtemps calmé par son âge avancé, et quoiqu'il fût encore robuste, avait cessé de tromper Madame de Guermantes, s'était épris de Madame de Forcheville, sans qu'on sût bien les débuts de cette liaison. Mais celle-ci avait pris des proportions telles que le vieillard, imitant dans ce dernier amour la manière de celle qu'il avait eue autrefois, séquestrait sa maîtresse, au point que, si mon amour pour Albertine avait répété, avec de grandes variations, l'amour de Swann pour Odette, l'amour de Monsieur de Guermantes rappelait celui que j'avais eu pour Albertine. Il fallait qu'elle déjeunât, qu'elle dînât avec lui. Il était toujours chez elle. Elle s'emparait auprès d'amis qui, sans elle, n'eût jamais été en relation avec le duc de Guermantes et qui venaient là pour le connaître, un peu comme on va chez une cocotte pour connaître un souverain, son amant. Certes, Madame de Forcheville était depuis longtemps devenue une femme du monde. Mais recommençant à être entretenue sur le tard, et par un si orgueilleux vieillard, qui était tout de même chez elle le personnage important, elle se diminuait à chercher seulement à avoir les peignoirs qui lui plussent, la cuisine qu'il aimait, à flatter ses amis en leur disant qu'elle lui avait parlé d'eux, comme elle disait à mon grand-oncle qu'elle avait parlé de lui au grand-duc qui lui envoyait des cigarettes. En un mot, elle tendait, malgré tout l'acquis de sa situation mondaine, et par la force de circonstances nouvelles, à redevenir, telle qu'elle était apparue à mon enfance, la dame en rose. Certes, il y avait bien des années que mon oncle Adolphe était mort, mais la substitution autour de nous d'autres personnes, aux anciennes, nous empêche-t-elle de recommencer la même vie? Ces circonstances nouvelles, elle s'y était prêtée, sans doute par cupidité, mais aussi parce que, assez recherchée dans le monde, quand elle avait une fille à marier, laissée de côté dès que Gilberte eut épousé Saint-Loup, elle sentit que le duc de Guermantes, qui eut tout fait pour elle, lui amènerait nombre de duchesses, peut-être enchantées de jouer un tour à leur amie Oriane, et peut-être enfin piquée au jeu par le mécontentement de la duchesse, sur laquelle un sentiment féminin de rivalité la rendait heureuse de prévaloir. Des neveux fort difficiles du duc de Guermantes, les Courvoisier, Madame de Marsante, la princesse de Trania, allaient chez Madame de Forcheville dans un espoir d'héritage, sans s'occuper de la peine que cela pouvait faire à Madame de Guermantes, dont Odette, piquée par ses dédains, disait tout le mal possible. Cette liaison avec Madame de Forcheville, liaison qui n'était qu'une imitation de ses liaisons plus anciennes, venait de faire perdre au duc de Guermantes, pour la deuxième fois, la possibilité de la présidence du jockey et un siège de membre libre à l'Académie des Beaux-Arts, comme la vie de M. de Charlus, publiquement associée à celle de Jupien, lui avait fait manquer la présidence de l'Union et celle aussi de la Société des Amis du Vieux-Paris. Ainsi, les deux frères, si différents dans leur goût, étaient arrivés à la déconsidération à cause d'une même paresse, d'un même manque de volonté, lequel était sensible, mais agréablement, chez le duc de Guermantes, leur grand-père, membre de l'Académie française, mais qui, chez les deux petits-fils, avait permis à un goût naturel et à un autre qui passe pour ne l'être pas, de les désocialiser. Le vieux duc ne sortait plus, car il passait ses journées et ses soirées chez Odette. Mais aujourd'hui, comme elle-même s'était rendue à la matinée de la princesse de Guermantes, il était venu un instant pour la voir, malgré l'ennui de rencontrer sa femme. Je ne l'eusse sans doute pas reconnu si la duchesse, quelques instants plus tôt, ne me l'eût clairement désigné en allant jusqu'à lui. Il n'était plus qu'une ruine, mais superbe, et plus encore qu'une ruine, cette belle chose romantique que peut être un rocher dans une tempête. Fouetté de toutes parts par les vagues de souffrance, de colère de souffrir, d'avancées montantes de la mer qui la circonvenait, sa figure, effritée comme un bloc, gardait le style, la cambrure que j'avais toujours admirée. Elle était rongée comme une de ces belles têtes antiques trop abîmées, mais dont nous sommes trop heureux d'orner un cabinet de travail. Elle paraissait seulement appartenir à une époque plus ancienne qu'autrefois, non seulement à cause de ce qu'elle avait pris de rude et de rompu dans sa matière jadis plus brillante, mais parce que, à l'expression de finesse et d'enjouement, avait succédé une involontaire, une inconsciente expression, bâtie par la maladie, de lutte contre la mort, de résistance, de difficulté à vivre. Les artères ayant perdu toute souplesse, avaient donné au visage, jadis épanoui, une dureté sculpturale. Et sans que le duc s'en doutât, il découvrait des aspects de nuque, de joue, de front, où l'être, comme obligé de se raccrocher avec acharnement à chaque minute, semblait bousculer dans une tragique rafale, pendant que les mèches blanches de sa chevelure moins épaisse venaient souffleter de leur écume le promontoire envahi du visage. Et comme ces reflets étranges, uniques, que seule l'approche de la tempête où tout va sombrer donne au rocher, qui avait été jusque-là d'une autre couleur, je compris que le gris plombé des joues raides et usées, le gris presque blanc et moutonnant des mèches soulevées, la faible lumière encore départie aux yeux qui voyaient à peine, étaient des teintes non pas irréelles, trop réelles au contraire, mais fantastiques et empruntées à la palette de l'éclairage, inimitables dans ces noirceurs effrayantes et prophétiques, de la vieillesse, de la proximité de la mort. Le duc ne resta que quelques instants, assez pour que je comprisse qu'Odette, toute à des soupirants plus jeunes, se moquait de lui. Mais, chose curieuse, lui qui jadis était presque sans ridicule quand il prenait l'allure d'un roi de théâtre, avait pris un aspect véritablement grand, un peu comme son frère, à qui la vieillesse, en le désencombrant de tout l'accessoire, le faisait ressembler. Et comme son frère, lui, jadis orgueilleux, bien que d'une autre manière, semblait presque respectueux, quoique aussi d'une autre façon. Car il n'avait pas subi la déchéance de M. de Charlus, réduit à saluer avec une politesse de malade oublieux ceux qu'il eût jadis dédaigné. Mais il était très vieux. Et quand il voulut passer la porte et descendre l'escalier pour sortir, la vieillesse, qui est tout de même l'état le plus misérable pour les hommes, et qui les précipite de leur fête le plus semblablement au roi des tragédies grecques, la vieillesse, en le forçant à s'arrêter dans le chemin de croix que devient la vie des impotents menacés, a essuyé son front ruisselant, a tâtonné, en cherchant des yeux une marche qui se dérobait, parce qu'il aurait eu besoin, pour ses pas mal assurés, pour ses yeux ennuagés, d'un appui. Lui donnait à son insu l'air de l'implorer doucement et timidement des autres. La vieillesse l'avait fait encore plus qu'auguste, suppliant. Ainsi, dans le faubourg Saint-Germain, ces positions en apparence imprenables du duc et de la duchesse de Guermantes, du baron de Charlus, avaient perdu leur inviolabilité, comme toutes choses changent en ce monde, par l'action d'un principe antérieur auquel on n'avait pas pensé. Chez M. de Charlus, l'amour de Charlie qui l'avait rendu esclave des Verdurin, puis le ramollissement. Chez Mme de Guermantes, un goût de nouveauté et d'art. Chez M. de Guermantes, un amour exclusif, comme il en avait déjà eu de pareil dans sa vie, que la faiblesse de l'âge rendait plus tyrannique, et aux faiblesses duquel la sévérité du salon de la duchesse, où le duc ne paraissait plus et qui d'ailleurs ne fonctionnait plus guère, n'opposait plus son démenti, son rachat mondain. Ainsi change la figure des choses de ce monde, ainsi le centre des empires et le cadastre des fortunes, et la charte des situations. Tout ce qui semblait définitif est-il perpétuellement remanié, et les yeux d'un homme qui a vécu peuvent-ils contempler le changement le plus complet là où justement il lui paraissait le plus impossible? Ne pouvant se passer d'Odette, toujours installée chez elle dans le même fauteuil, d'où la vieillesse et la goutte le faisaient difficilement lever, M. de Guermantes l'a laissé recevoir des amis, qui étaient trop contents d'être présentés au duc, de lui laisser la parole, de l'entendre parler de la vieille société, de la marquise de Villeparisis, du duc de Chartres. Par moments, sous le regard des tableaux anciens réunis par Swann, dans un arrangement de collectionneur qui achevait le caractère démodé de cette scène, avec ce duc si restauration et cette cocotte tellement Second Empire dans un des peignoirs qu'il aimait, la dame en rose l'interrompait d'une jacasserie. Il s'arrêtait net, plantait sur elle un regard féroce. Peut-être s'était-il aperçu qu'elle aussi, comme la duchesse, disait quelquefois des bêtises. Peut-être, dans une hallucination de vieillard, croyait-il que c'était un trait d'esprit intempestif de madame de Guermantes qui lui coupait la parole. Et se croyait-il à l'hôtel de Guermantes, comme ces fauves enchaînés qui se figurent un instant être encore libres dans les déserts de l'Afrique. Levant brusquement la tête, de ses petits yeux jaunes qui avaient l'éclat d'yeux de fauve, il fixait sur elle un de ces regards qui, quelquefois chez madame de Guermantes, quand celle-ci parlait trop, m'avait fait trembler. Ainsi, le duc regardait-il un instant l'audacieuse dame en rose. Mais celle-ci lui tenait tête, ne le quittait pas des yeux. Et au bout de quelques instants, qui semblaient longs aux spectateurs, le vieux fauve dompté, se rappelant qu'il était non pas libre chez la duchesse, dans ce Sahara dont le paillasson du palier marquait l'entrée, mais chez madame de Forcheville, dans la cage du jardin des plantes, rentrait dans ses épaules sa tête, d'où pendait encore une épaisse crinière, dont on aurait pu dire si elle était blonde ou blanche, et reprenait son récit. Il semblait n'avoir pas compris ce que madame de Forcheville avait voulu dire, et qui d'ailleurs, généralement, n'avait pas grand sens. Il lui permettait d'avoir des amis à dîner avec lui. Par une manie empruntée à ses anciennes amours, qui n'était pas pour étonner Odette, habituée à avoir eu la même de Swann, et qui me touchait, moi, en me rappelant ma vie avec Albertine, il exigeait que ces personnes se retirassent de bonne heure, afin qu'il pût dire bonsoir à Odette le dernier. Inutile de dire qu'à peine était-il parti, elle allait en rejoindre d'autres. Mais le duc ne s'en doutait pas, ou préférait ne pas avoir l'air de s'en douter. La vue des vieillards baisse, comme leur oreille devient plus dure, leur clairvoyance s'obscurcit, la fatigue même fait faire relâche à leur vigilance. Et à un certain âge, c'est en un personnage de Molière, non pas même en l'Olympien amant d'Alcmène, mais en un risible Géronte, que se change inévitablement Jupiter. D'ailleurs, Odette trompait M. de Guermantes, et aussi le soignait, sans charme, sans grandeur. Elle était médiocre dans ce rôle comme dans tous les autres. Non pas que la vie ne lui en eût souvent donné de beau, mais elle ne savait pas les jouer. En attendant, elle jouait celui de recluse. De fait, chaque fois que je voulus la voir dans la suite, je n'y pus réussir, car M. de Guermantes, voulant à la fois concilier les exigences de son hygiène et de sa jalousie, ne lui permettait que les fêtes de jour, à condition encore que ce ne fussent pas des bals. Cette réclusion où elle était tenue, elle me l'avoua avec franchise pour diverses raisons. La principale est qu'elle s'imaginait, bien que je n'eusse écrit que des articles ou publié que des études, que j'étais un auteur connu, ce qui lui faisait même naïvement dire, se rappelant le temps où j'allais avenue des Acacias pour la voir passer, et plus tard chez elle, « Ah, si j'avais pu deviner que ce petit serait un jour un grand écrivain !» Or, ayant entendu dire que les écrivains se plaisent auprès des femmes pour se documenter, se faire raconter des histoires d'amour, elle redevenait maintenant avec moi simple cocotte pour m'intéresser. Tenez, une fois il y avait un homme qui s'était toqué de moi, et que j'aimais éperdument aussi. Nous vivions d'une vie divine. Il avait un voyage à faire en Amérique. Je devais y aller avec lui. La veille du départ, je trouvais que c'était plus beau de ne pas laisser diminuer un amour qui ne pourrait pas toujours rester à ce point, Nous eûmes une dernière soirée où il était persuadé que je partais. Ce fut une nuit folle. J'avais près de lui des joies infinies et le désespoir de sentir que je ne le reverrais pas. Le matin, j'étais allée donner mon billet à un voyageur que je ne connaissais pas. Il voulait au moins l'acheter. Je lui répondis « Non, vous me rendez un tel service en me le prenant, je ne veux pas d'argent. » Puis c'était une autre histoire. Un jour, j'étais dans les Champs-Élysées. Monsieur de Bréauté, que je n'avais vu qu'une fois, se mit à me regarder avec une telle insistance que je m'arrêtai et lui demandai pourquoi il se permettait de me regarder comme ça. Il me répondit « Je vous regarde parce que vous avez un chapeau ridicule. » C'était vrai, c'était un petit chapeau avec des pensées. Les modes de ce temps-là étaient affreuses. Mais j'étais en fureur, je lui dis « Je ne vous permets pas de me parler ainsi. » Il se mit à pleuvoir, je lui dis « Je ne vous pardonnerai que si vous aviez une voiture. » « Eh bien, justement, j'en ai une et je vais vous accompagner. » « Non, je veux bien de votre voiture, mais pas de vous. » Je montai dans la voiture, il partit sous la pluie. Mais le soir, il arriva chez moi. Nous eûmes 2 années d'un amour fou. Elle reprit. « Venez prendre une fois le thé avec moi. Je vous raconterai comment j'ai fait la connaissance de monsieur de Forcheville. » « Au fond, » dit-elle d'un air mélancolique, « j'ai passé ma vie cloîtrée parce que je n'ai eu de grands amours que pour des hommes qui étaient terriblement jaloux de moi. Je ne parle pas de monsieur de Forcheville, car au fond, c'était un médiocre, et je n'ai jamais pu aimer véritablement que des gens intelligents. Mais voyez-vous, monsieur Swann était aussi jaloux que l'est ce pauvre duc. Pour celui-ci, je me prive de tout, parce que je sais qu'il n'est pas heureux chez lui. Pour monsieur Swann, c'était parce que je l'aimais follement. Et je trouve qu'on peut bien sacrifier la danse et le monde et tout le reste à ce qui peut faire plaisir ou seulement éviter des soucis à un homme qu'on aime. Pauvre Charles, il était si intelligent, si séduisant, exactement le genre d'homme que j'aimais. » Et c'était peut-être vrai. Il y avait eu un temps où Swann lui avait plu, justement celui où elle n'était pas son genre. À vrai dire, son genre, même plus tard, elle ne l'avait jamais été. Il l'avait pourtant alors tant et si douloureusement aimée. Il était surpris plus tard de cette contradiction. Elle ne doit pas en être une, si nous songeons combien est forte dans la vie des hommes la proportion des souffrances pour des femmes, qui n'étaient pas leur genre. Peut-être cela tient-il à bien des causes. D'abord, parce qu'elles ne sont pas votre genre, on se laisse d'abord aimer sans aimer. Par là, on laisse prendre sur sa vie une habitude qui n'aurait pas eu lieu avec une femme qui eût été votre genre, et qui, se sentant désirée, se fût disputée, ne nous aurait accordé que de rares rendez-vous, n'eût pas pris dans notre vie cette installation dans toutes nos heures, qui, plus tard, si l'amour vient et qu'elle vienne à nous manquer, pour une brouille, pour un voyage où on nous laisse sans nouvelles, ne nous arrache pas un seul lien, mais 1000. Ensuite, cette habitude est sentimentale, parce qu'il n'y a pas grand désir physique à la base, et si l'amour naît, le cerveau travaille bien davantage. Il y a un roman au lieu d'un besoin. Nous ne nous méfions pas des femmes qui ne sont pas notre genre, nous les laissons nous aimer. Et si nous les aimons ensuite, nous les aimons 100 fois plus que les autres, sans avoir même près d'elles la satisfaction du désir assouvi. Pour ces raisons et bien d'autres, le fait que nous ayons nos plus gros chagrins avec les femmes qui ne sont pas notre genre ne tient pas seulement à cette dérision du destin qui ne réalise notre bonheur que sous la forme qui nous plaît le moins. Une femme qui est notre genre est rarement dangereuse, car ou elle ne veut pas de nous, ou nous contente et nous quitte, ne s'installe pas dans notre vie. Et ce qui est dangereux et procréateur de souffrance dans l'amour, ce n'est pas la femme elle-même, c'est sa présence de tous les jours, la curiosité de ce qu'elle fait à tout moment. Ce n'est pas la femme, c'est l'habitude. »
J'eus la lâcheté d'ajouter que ce qu'elle disait de Swann était gentil et noble de sa part, mais je savais combien c'était faux et que sa franchise se mêlait de mensonges. Je pensais avec effroi, au fur et à mesure qu'elle me racontait ses aventures, à tout ce que Swann avait ignoré, dont il aurait tant souffert, parce qu'il avait fixé sa sensibilité sur cet être-là, et qu'il devinait à en être sûr, rien qu'à ses regards, quand elle voyait un homme ou une femme inconnue et qui lui plaisait. Au fond, elle le faisait seulement pour me donner ce qu'elle croyait des sujets de nouvelles. Elle se trompait. Non qu'elle n'eût de tout temps abondamment fourni les réserves de mon imagination, mais d'une façon bien plus involontaire et par un acte émané de moi-même qui dégageait d'elle à son insu les lois de sa vie. Monsieur de Guermantes ne gardait ses foudres que pour la duchesse. Sur les libres fréquentations de laquelle madame de Forcheville ne manquait pas d'attirer l'attention irritée du duc. Aussi la duchesse était-elle fort malheureuse. Il est vrai que monsieur de Charlus, à qui j'en avais parlé une fois, prétendait que les premiers torts n'avaient pas été du côté de son frère, que la légende de pureté de la duchesse était faite, en réalité, d'un nombre incalculable d'aventures habilement dissimulées. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Pour presque tout le monde, madame de Guermantes était une femme toute différente. L'idée qu'elle avait été toujours irréprochable gouvernait les esprits. Entre ces deux idées, je ne pouvais décider laquelle était conforme à la vérité, cette vérité que presque toujours les trois quarts des gens ignorent. Je me rappelais bien certains regards bleus et vagabonds de la duchesse de Guermantes dans la nef de Combray, mais vraiment aucune des deux idées n'était réfutée par eux, et l'une et l'autre pouvaient leur donner un sens différent et aussi acceptable. Dans ma folie, enfant, je les avais pris un instant pour des regards d'amour adressés à moi. Depuis, j'avais compris qu'ils n'étaient que des regards bienveillants d'une suzeraine, pareils à celle des vitraux de l'église pour ses vassaux. Fallait-il maintenant croire que c'était ma première idée qui avait été la vraie, et que si, plus tard, jamais la duchesse ne m'avait parlé d'amour, c'est parce qu'elle avait craint de se compromettre avec un ami de sa tante et de son neveu, plus qu'avec un enfant inconnu rencontré par hasard à Saint-Hilaire de Combray? La duchesse avait pu un instant être heureuse de sentir son passé plus consistant, parce qu'il était partagé par moi. Mais à quelques questions que je lui posais à nouveau sur le provincialisme de monsieur de Bréauté, que j'avais à l'époque peu distingué de monsieur de Sagan ou de monsieur de Guermantes, elle reprit son point de vue de femme du monde, c'est-à-dire de contemptrice de la mondanité. Tout en me parlant, la duchesse me faisait visiter l'hôtel. Dans des salons plus petits, on trouvait des intimes qui, pour écouter la musique, avaient préféré s'isoler. Dans un petit salon empire, où quelques rares habits noirs écoutaient assis sur un canapé, on voyait, à côté d'une psyché supportée par une minerve, une chaise longue, placée de façon rectiligne, mais à l'intérieur incurvée comme un berceau, et où une jeune femme était étendue. La mollesse de sa pose, que l'entrée de la duchesse ne lui fit même pas déranger, contrastait avec l'éclat merveilleux de sa robe en pire, en une soierie nacara devant laquelle les plus rouges fuchsias eussent pâli, et sur le tissu nacré de laquelle des insignes et des fleurs semblaient avoir été enfoncés longtemps, car leurs traces y restaient en creux. Pour saluer la duchesse, elle inclina légèrement sa belle tête brune. Bien qu'il fît grand jour, comme elle avait demandé qu'on fermât les grands rideaux, en vue de plus de recueillement pour la musique, on avait, pour ne pas se tordre les pieds,
allumait sur un trépied une urne où s'irisait une faible lueur. En réponse à ma demande, la duchesse de Guermantes me dit que c'était Madame de Sainte-Verte. Alors je voulus savoir ce qu'elle était à la Madame de Sainte-Verte que j'avais connue. Madame de Guermantes me dit que c'était la femme d'un de ses petits-neveux. Parut supporter l'idée qu'elle était née la Rochefoucauld, mais nia avoir elle-même connu des Saintes-Vertes. Je lui rappelai la soirée, que je n'avais su, il est vrai, que par ouï-dire, où, princesse des Laumes, elle avait retrouvé Swann. Madame de Guermantes m'affirma n'avoir jamais été à cette soirée. La duchesse avait toujours été un peu menteuse, et l'était devenue davantage. Madame de Sainte-Verte était pour elle un salon, d'ailleurs assez tombé avec le temps, qu'elle aimait à renier. Je n'insistais pas. « Non, qui vous avez pu entrevoir chez moi, parce qu'il avait de l'esprit, c'est le mari de celle dont vous parlez, et avec qui je n'étais pas en relation. »«
Mais elle n'avait pas de mari. »
Vous vous l'êtes figuré, parce qu'ils étaient séparés, mais il était bien plus agréable qu'elle. Je finis par comprendre qu'un homme énorme, extrêmement grand, extrêmement fort, avec des cheveux tout blancs, que je rencontrais un peu partout et dont je n'avais jamais su le nom, était le mari de Madame de Sainte-Verte. Il était mort l'an passé. Quant à la nièce, j'ignore si c'est à cause d'une maladie d'estomac, de nerfs, d'une phlébite, d'un accouchement prochain, récent ou manqué, qu'elle écoutait la musique étendue sans se bouger pour personne. Le plus probable est que, fière de ses belles soies rouges, elle pensait faire sur sa chaise longue un effet genre récamier. Elle ne se rendait pas compte qu'elle donnait pour moi la naissance à un nouvel épanouissement de ce nom Sainte-Verte, qui à tant d'intervalles marquait la distance et la continuité du temps. C'est le temps qu'elle berçait dans cette nacelle où fleurissait le nom de Sainte-Verte et le style empire en soie de fuchsia rouge. Ce style empire, Madame de Guermantes déclarait l'avoir toujours détesté. Cela voulait dire qu'elle le détestait maintenant, ce qui était vrai, car elle suivait la mode, bien qu'avec quelques retards. Sans compliquer en parlant de David qu'elle connaissait peu, toute jeune fille, elle avait cru Monsieur Ingres le plus ennuyeux des poncifs, puis brusquement le plus savoureux des maîtres de l'art nouveau, jusqu'à détester de la croix. Par quel degré elle était revenue de ce culte à la réprobation, importe peu. Puisque ce sont là des nuances, des goûts que la critique d'art reflète 10 ans avant la conversation des femmes supérieures. Après avoir critiqué le style empire, elle s'excusa de m'avoir parlé de gens aussi insignifiants que les Saintes-Vertes et de niaiseries comme le côté provincial de Bréauté, car elle était aussi loin de penser pourquoi cela m'intéressait que Madame de Sainte-Verte de la Rochefoucauld, cherchant le bien de son estomac ou un effet ingresque, était loin de soupçonner que son nom m'avait ravi, celui de son mari, non celui plus glorieux de ses parents, et que je lui voyais comme une fonction dans cette pièce pleine d'attributs de bercer le temps. Mais comment puis-je vous parler de ces sottises? Comment cela peut-il vous intéresser? S'écria la duchesse. Elle avait dit cette phrase à mi-voix, et personne n'avait pu entendre ce qu'elle disait. Mais un jeune homme, qui devait m'intéresser dans la suite par un nom bien plus familier de moi autrefois que celui de Sainte-Verte, se leva d'un air exaspéré et alla plus loin pour écouter avec plus de recueillement. Car c'était la sonate à Kreutzer qu'on jouait. Mais s'étant trompé sur le programme, il croyait que c'était un morceau de Ravel qu'on lui avait déclaré être beau comme du Palestrina, mais difficile à comprendre. Dans sa violence à changer de place, il heurta, à cause de l'obscurité, un bonheur du jour, ce qui n'alla pas sans faire tourner la tête à beaucoup de personnes, pour qui cet exercice si simple de regarder derrière soi interrompait un peu le supplice d'écouter religieusement la sonate à Kreutzer. Et madame de Guermantes et moi, cause de ce petit scandale, nous nous hâtâmes de changer de pièce. Oui, comment ces riens-là peuvent-ils intéresser un homme de votre mérite? C'est comme tout à l'heure, quand je vous voyais causer avec Gilberte de Saint-Loup. Ce n'est pas digne de vous. Pour moi, c'est exactement rien, cette femme-là. Ce n'est même pas une femme. C'est ce que je connais de plus factice et de plus bourgeois au monde. Car même à sa défense de l'actualité, la duchesse mêlait ses préjugés d'aristocrate. D'ailleurs, devriez-vous venir dans des maisons comme ici? Aujourd'hui encore, l'étonnement que me causèrent les paroles de Gilberte et le plaisir qu'elles me firent furent bien vite remplacés, tandis que madame de Saint-Loup s'éloignait vers un autre salon, par cette idée du temps passé, qu'elle aussi, à sa manière, me rendait, et sans même que je l'eusse vue, mademoiselle de Saint-Loup. Comme la plupart des êtres, d'ailleurs, n'était-elle pas, comme sont dans les forêts les étoiles des carrefours, où viennent converger des routes venues, pour notre vie aussi, des points les plus différents? Elles étaient nombreuses pour moi, celles qui aboutissaient à mademoiselle de Saint-Loup, et qui rayonnaient autour d'elle. Et avant tout, venaient aboutir à elle les deux grands côtés où j'avais fait tant de promenades et de rêves. Par son père Robert de Saint-Loup, le côté de Guermantes, par Gilberte, sa mère, le côté de mes églises, qui était le côté de chez Swann. L'un, par la mère de la jeune fille et les Champs-Élysées, me menait jusqu'à Swann, à mes soirs de Combray, aux côtés de mes églises. L'autre, par son père, à mes après-midi de Balbec, où je le revoyais près de la mer ensoleillée. Déjà, entre ces deux routes, des transversales s'établissaient. Car ce Balbec réel, où j'avais connu Saint-Loup, c'était en grande partie à cause de ce que Swann m'avait dit sur les églises, sur l'église persane surtout, que j'avais tant voulu y aller, et d'autre part, par Robert de Saint-Loup, neveu de la duchesse de Guermantes, je rejoignais, à Combray encore, le côté de Guermantes. Mais à bien d'autres points de ma vie encore, conduisait mademoiselle de Saint-Loup, à la dame en rose, qui était sa grand-mère, et que j'avais vue chez mon grand-oncle. Nouvelle transversale ici, car le valet de chambre de ce grand-oncle, et qui m'avait introduit ce jour-là, et qui plus tard m'avait, par le don d'une photographie, permis d'identifier la dame en rose, était l'oncle du jeune homme, que non seulement monsieur de Charlus, mais le père même de mademoiselle de Saint-Loup avait aimé, pour qui il avait rendu sa mère malheureuse. Et n'était-ce pas le grand-père de mademoiselle de Saint-Loup, Swann, qui m'avait le premier parlé de la musique de Vinteuil, de même que Gilberte m'avait la première parlé d'Albertine? Or, c'est en parlant de la musique de Vinteuil à Albertine que j'avais découvert qui était sa grande amie et commencé avec elle cette vie qui l'avait conduite à la mort et m'avait causé tant de chagrin. C'était du reste aussi le père de mademoiselle de Saint-Loup qui était parti tâcher de faire revenir Albertine. Et même, je revoyais toute ma vie mondaine, soit à Paris dans le salon des Swann ou des Guermantes, soit tout à l'opposé, à Balbec, chez les Verdurin, faisant ainsi s'aligner, à côté des deux côtés de Combray, les Champs-Élysées et la belle terrasse de la Raspelière. D'ailleurs, quels êtres avons-nous connus qui, pour raconter notre amitié avec eux, ne nous obligent à les placer nécessairement dans tous les sites les plus différents de notre vie? Une vie de Saint-Loup peinte par moi se déroulerait dans tous les décors et intéresserait toute ma vie, même les parties de cette vie où il fut étranger, comme ma grand-mère ou comme Albertine. D'ailleurs, si à l'opposé qu'ils fussent, les Verdurin tenaient à Odette par le passé de celle-ci, à Robert de Saint-Loup par Charlie, et chez eux, Quel rôle n'avait pas joué la musique de Vinteuil? Enfin, Swann avait aimé la sœur de Legrandin, lequel avait connu M. de Charlus, dont le jeune Cambremer avait épousé la pupille. Certes, s'il s'agit uniquement de nos cœurs, le poète a eu raison de parler des fils mystérieux que la vie brise. Mais il est encore plus vrai qu'elle en tisse sans cesse entre les êtres, entre les événements, qu'elle entrecroise ces fils, qu'elle les redouble pour épaissir la trame. Si bien qu'entre le moindre point de notre passé et tous les autres, un riche réseau de souvenirs ne laisse que le choix des communications. On peut dire qu'il n'y avait pas, si je cherchais à ne pas en user inconsciemment, mais à me rappeler ce qu'elle avait été, une seule des choses qui nous servait en ce moment qui n'avait été une chose vivante, et vivant d'une vie personnelle pour nous, transformée ensuite à notre usage en simple matière industrielle. Et ma présentation à Mademoiselle de Saint-Loup allait avoir lieu chez Madame Verdurin, devenue princesse de Guermantes. Avec quel charme je repensais à tous nos voyages avec Albertine, dont j'allais demander à Mademoiselle de Saint-Loup d'être un succès d'année. Dans le petit tram, vers Deauville, pour aller chez Madame Verdurin, cette même Madame Verdurin qui avait noué et rompu, avant mon amour pour Albertine, celui du grand-père et de la grand-mère de Mademoiselle de Saint-Loup. Tout autour de nous étaient des tableaux de cette Elstir qui m'avait présenté à Albertine. Et pour mieux fondre tous mes passés, Madame Verdurin, tout comme Gilberte, avait épousé un Guermantes.